au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Bonjour, 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 bonjour. Pourquoi quatre fois bonjour pour lui? Parce que c'est le retour de Mathieu. Ah, t'es de retour au travail. Donc, on est quatre fois plus heureux.
D'accord.
OK. Salut Mathieu, t'as eu des belles vacances.
Je pense qu'il y a deux cas de figure dans les vacances. Les vacances qui reposent et les vacances qui divertissent. Moi, je suis clairement de la deuxième école. C'est les vacances qui divertissent.
Mais qui reposent pas.
Ben oui, oui, quand
t'as
même.
T'as fait des travaux à la maison?
Pas du tout.
C'était oui. Bon là-dedans, on s'en reparle tantôt après l'émission.
D'accord, merci.
oui, c'est le 24 août 2026, 236e jour de l'année. Et je ne dis pas la phrase qui suit parce que Mathieu va me trangler si je le fais.
C'est pas moi qui ai Noël.
Ah,
hein?
C'est une de tes amies qui nous écoute, mais en cas, je vais le dire, 129 jours avant la fin de l'année. Voilà. Aujourd'hui, donc, c'est une journée pluvieuse presque partout au pays, avec des maximums autour de 21 humidex à 26 degrés. Exception, donc, le nord de l'Ontario, où il y a du soleil. Même chose en Alberta et en Colombie-Britannique. Et puis, eh bien, aujourd'hui à l'émission, on a le plaisir de recevoir Louis de Bernis. Salut Louis.
Bonjour Denis Martin.
Alors, un insolite aujourd'hui.
Deux insolites, deux événements qui se sont passés cet été. Le premier a fait des millions de vues sur les réseaux sociaux. C'était un mariage sans marié. L'histoire, eh bien, c'est que le marié a changé d'avis une semaine avant la fête. Eh bien, la mariée a quand même tenu le mariage. Et vous verrez, c'est assez amusant pourquoi tout annuler à la dernière minute. Et une autre, un record du monde a été brisé cet été. Il a la voix cassée depuis, paraît-il. C'est le record du monde du cri le plus fort jamais enregistré par un humain.
En tout cas, c'est à faire. Tenir son mariage quand même. Je suis certain que ça coûte moins cher que de se marier puis se divorcer plus tard. Parce que les avocats vont faire moins d'argent cette fois-ci. Bon, ben moi, de mon côté, j'ai beaucoup de choses à vous présenter aujourd'hui. D'abord, on va parler de cancer du sein. C'est l'auteur Diane Daniel, qui est également père aidante à la Ligne Rose de la Fondation du cancer du sein, pour parler de ce qui se passe après le traitement. Et souvent, les personnes qui ont subi les traitements pour le cancer du sein, quand elle se retrouve, bon, en meilleure santé, elle se retrouve seule et abandonnée. C'est assez intéressant. J'ai lu ce livre-là avec beaucoup, beaucoup... ça m'a beaucoup appris de choses. Et puis, on va aussi parler ma grosse nouvelle d'aujourd'hui. Nous recevons Hervé Gagnon, qui est l'auteur d'un roman, le 51e. Imaginez-vous qu'il a écrit un roman dystopique sur qu'est-ce qui arriverait au Canada s'il devenait le 51e États-Unien. Donc, je vous dis tout de suite... J'ai pas préparé cette entrevue-là ce matin. Ça fait un petit bout qu'on l'avait prévu. Je me suis dit qu'il y avait quelque part une bonne fille de la radio qui passait à nous, qu'on soit aussi pertinent ce matin avec ce sujet-là. Ça n'a pas de bon sens.
J'ai lu la feuille de route en diagonale. Je croyais que c'était son 51e livre.
Ah, bien, il y en a écrit beaucoup. En fait, ouais. Je me rappelle pas, mais il y en a écrit beaucoup, Hervé, des livres. Je suis très content, il va être ici avec nous en studio. On va aussi recevoir Fabien Marcille, qui est directeur artistique des Chapelles Saintes Contemporaines. Il va nous parler de la nouvelle saison, surtout que c'est un des nouveaux co-directeurs artistiques de cet établissement culturel. Et puis, on va parler de... des lectures, une célébration de la dramaturgie de Claude Poisson au Théâtre Denise Pelletier. Et donc, on va recevoir Anna Sanchez qui fait une mise en lecture cabaret d'un de ces trois soirs qui auront lieu. On va vous expliquer ça tout à l'heure. Et puis, je vais vous parler peut-être un peu de d'aujourd'hui, ce 24 août. Il me semble que ça passe vite, hein? C'est la dernière semaine que j'anime. Ça passe vite, hein, l'été. Alors... je vais vous parler de qu'en l'an 79, l'éruption du Vésuve qui ensevelit Pompéi et Herculanum, c'est donc ça, cette espèce d'événement catastrophique là. L'ONU d'ailleurs conserve cette date comme dans la présentation du site archéologique. On n'est pas tout à fait certain là, si c'est la date exacte, mais quand même, c'est la date qui a été retenue.
C'est l'UNESCO.
L'UNESCO, j'ai dit l'ONU. L'UNESCO, merci. Parce que c'est sur la feuille de route, donc tu l'as vu, Mathieu. Merci de me rappeler ça. Et puis aujourd'hui, en 1991, hein, l'Ukraine proclame son indépendance. Oh là là. D'ailleurs, il y a des réunions de prévues pour voir ce que les pays vont pouvoir faire pour appuyer l'Ukraine contre l'agression armée qu'elle subit de la part de l'Union soviétique. Hein, pas l'Union soviétique, la Russie. Ouais. Aujourd'hui, je pense que je vais remettre mes pendules à l'heure. Là. 1995, c'était la sortie commerciale de Windows 95, hein, qui avait beaucoup changé cette façon de fonctionner. La première chanson aujourd'hui, je me fais un petit plaisir. Ben, en fait, ce n'est pas un plaisir. J'ai passé, vous avez rencontré il y a deux semaines, c'était Christophe Gérard et Aurélien Potel, deux bons amis à moi qui sont venus faire de la radio. Ils ont préparé des balado-diffusion qui vont diffuser en France. Ils ont passé beaucoup de temps avec nous et avec moi. Et je vais vous dire que on est des amis de longue date, surtout Christophe et moi. Ça fait 26 ans que nous nous connaissons. Ils sont partis, puis j'étais triste ce week-end. Puis je me suis fait jouer cette chanson que je vous fais jouer et que j'avais dit à mes amis et à toutes les personnes qui sont amies de d'autres personnes.
Beaucoup de mes amis sont venus des nuages, avec soleil et pluie comme simple bagage. Ils ont fait la saison des amitiés sincères, la plus belle saison des quatre de la terre. Ils ont cette douceur des plus beaux paysages et la fidélité des oiseaux de passage. Dans leur cœur est gravée une infinie tendresse, mais parfois dans leurs yeux se glisse la tristesse. Partir au fin fond des nuages et de nouveau sourire à bien d'autres visages. Donner autour de toi un peu de ta tendresse lorsqu'un autre voudra te cacher sa tristesse. Comme l'on ne sait pas ce que la vie nous donne, il se peut qu'à mon tour je ne sois plus personne. S'il me reste un ami qui vraiment me comprenne, j'oublierai à la fois mes larmes et mes peines. Alors peut-être je viendrai chez toi.
François Hardy, la chanson « L'amitié ».
Qui ne se démode pas, ça date de 1965, une chanson qui a été écrite, les paroles de Jean-Max Rivière et de Gérard, les musiques Gérard Bourgeois. On va faire un petit tour dans les actualités. Évidemment, ce qui retient l'attention aujourd'hui dans tous les quotidiens, dans toutes les unes, il y a un sondage, on va en parler, donc dans le contexte de la guerre commerciale qu'a déclaré Donald Trump au Canada. Une majorité écrasante de Canadiens et de Canadiennes soutient donc la décision du premier ministre Mark Carney de rompre les négociations. Dans un sondage de l'Institut Angus Reid mené auprès de 1468 répondants, 76% des Canadiens approuvent l'abandon des pourparlers survenus tard vendredi face aux exigences états-uniennes. Puis en fait, il y a plein d'analyses qu'il faut regarder là-dessus, mais semble-t-il que si le Canada avait dit oui à ça, ça ouvrait la porte à tellement d'abus et on perdait le contrôle de notre souveraineté avec ça. Alors, j'écoutais Chantal Hébert à une autre radio ce matin qui était assez clair là-dessus, là, ce que ça voulait dire, parce que les détails de l'entente ont été rendus publics. C'est dans le Globe and Mail ce matin. Au Québec, donc, le taux d'approbation atteint un sommet national de 85%, ce qui s'explique notamment parce que les règles sur la langue française ont été classifiées ou plutôt qualifiées de barrières commerciales par Washington. Même les électeurs conservateurs, où on retrouve la majorité des Canadiens qui se définissent comme trumpistes, 53% des répondants appuient la stratégie fédérale. Malgré ce soutien unanime à une ligne dure, les inquiétudes sur le plan économique restent vivement ressenties par la population. Près de 2 Canadiens sur 5, voilà, on dit 38% craignent pour la sécurité de leur propre emploi en raison de l'élargissement des tarifs états-uniens à des secteurs comme l'agroalimentaire, le matériel de construction et les biens de consommation. De plus, 89% des répondants appréhendent les répercussions de cette crise sur le coût de la vie. Les projections économiques, d'ailleurs, indiquent que cette salve tarifaire pourrait faire perdre jusqu'à 0,4% du produit intérieur brut canadien et entraîner la suppression de 90 000 emplois. Sur le plan des mesures de rétorsion, 62 % des Canadiens jugent appropriée la réplique tarifaire dollar pour dollar prévue par le gouvernement canadien pour le 8 septembre prochain. Globalement, 69 % des répondants estiment que Mark Carney a fait preuve de force en quittant la table des négociations. Enfin, malgré les tensions et la possibilité de nouvelles représailles ciblées contre les entreprises canadiennes, 64 % de la population croit que le pays sortira renforcé de cette crise en réduisant sa dépendance économique envers les États-Unis.
Elle parle une langue aux accents qui me sont familiers, d'un pays qu'une nuit, dans un rêve, j'aurais visité. Je la prie de pardonner à l'avance mes maladresses. Elle sourit poliment, mais je crois qu'elle ne m'a pas compris. La jeunesse est un autre pays. Il habite une ville secrète, un monde parallèle. Une réalité qui possède sa logique à elle. Connaît les mots de passe et les formules de politesse qui ouvrent les salons décadents de l'aristocratie. La jeunesse est un autre pays. Ils sont beaux les enfants du nouveau continent de plastique. Ils se tiennent debout, dansent avec les mouvements tectoniques. Rame à contre-courant avant que l'horizon disparaisse. Oui, je sais que la vague s'en vient, mais moi je reste ici. La jeunesse est un autre pays. Ils sont toute une armée qui cherche à traverser la frontière. Nous sommes presque autant à souhaiter revenir en arrière. On peut changer les meubles de place, on peut changer d'adresse. Mais on ne revient pas sur ses traces au chemin de la vie. La jeunesse est un autre pays. La jeunesse est un autre pays. Elle regarde les beaux paysages dans les magazines, se projette en arrière dans des voyages qu'elle imagine. Elle revoit ce coin de paradis, cette vie de paresse, reconnaît pas les visages dans la photographie. La jeunesse est un autre pays. Il porte un nom de plume, un costume surdimensionné, et consomme la nuit des alcools de fruits mal aimés. Il embrasse la mort, aime de tout son corps et se blesse. On a tort de penser que je suis si différent de lui. La jeunesse est un autre pays.
La jeunesse est un autre pays, une chanson de Philippe B.
Oui, quand on prend de l'âge, c'est certainement un autre pays, puis il s'éloigne d'année en année. Excusez-la. Bon, ça va. Des fois, l'humour sort tout seul. Hein? J'avais dit que je ne ferais pas de blague ce matin, puis c'est incapable de contrôler ça. On va voir notre ami Louis de Bernice. Il quitte 7 jours avant le mariage. Elle maintient la fête et part en lune de miel avec sa mère.
Oui, c'est l'histoire d'une Britannique qui s'est passée récemment, cet été, pas banale, et qui a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux. Catherine Jones, je vous la présente. Elle, son nom est public, le nom de son fiancé l'est moins pour éviter qu'il ne soit un peu insulté sur les réseaux sociaux. Parce que Catherine Jones a donc dû annuler son mariage, qui était prévu début août, avec son fiancé à la dernière minute. Un cas de force majeure qui arrive parfois, pas trop souvent, heureusement. Le fiancé en question venait de renoncer dans la toute dernière ligne droite avant la cérémonie. Après 6 ans et demi de relation, il a visiblement réfléchi et trouvé que ce n'était pas le bon choix de vie.
Je pense qu'en anglais, c'est « cold feet ».
Peut-être. Il lui a annoncé en tout cas 7 jours seulement avant le jour J. D'abord effondrée, on peut l'imaginer, la Britannique de 36 ans a pris une initiative osée, devenue virale sur les réseaux sociaux depuis. Les frais, en effet, étaient engagés, puis difficile de se faire rembourser dans ce cas-là. Les invités aussi et surtout avaient réservé tous leurs billets d'avion pour l'Italie, parce que c'est en Italie que ça devait se passer. Trop tard donc pour tout annuler. Privée de cérémonie, Catherine choisit de faire la fête malgré tout. Rendez-vous maintenu pour 3 jours de bon temps dans un domaine en Toscane. Il y a quand même pire comme destination. « J'en ai discuté avec mes sœurs et ma mère, dit-elle, et nous avons décidé que le spectacle devait continuer, que « the show must go on », ça se dit mieux en anglais. Seule concession faite au programme initial, la Britannique a renoncé à porter la robe de mariée qu'elle avait commandée, qu'elle compte désormais vendre, tout comme sa bague de fiançailles. Pour le reste, et on peut le voir sur les nombreuses vidéos qui circulent, les 3 jours en Toscane ont été un franc succès sur toute la ligne. C'était comme une grande réunion de famille et amicale pour célébrer avec du champagne. Mise en scène sur les réseaux sociaux, ce mariage sans mariée est devenu viral. Les vidéos cumulent plus de 40 millions de vues. Je pensais, dit-elle, que mes vidéos feraient parler un peu à Liverpool, d'où elle est originaire. Le fait qu'elles aient atteint un tel public mondial et circulent autant m'a surprise, explique-t-elle. Elle a poussé l'expérience jusqu'à une lune de miel à Capri avec sa mère. Hein, elle n'était pas seule quand même. Moins cher qu'un divorce et tu as quand même droit à des photos très belles, ironise un internaute. Elle est donc allée au bout de l'expérience et a tout fait, même sans son fiancé. La fête est désormais finie, elle est de retour en Angleterre. Il se pourrait que la trentenaire et conduite n'en ait pas terminé avec toute cette histoire. Elle compte désormais présenter la facture des festivités aux mariés démissionnaires et à récupérer la somme lors de la vente de leur maison achetée en commun. Mais elle aura en tout cas fait une grande fête cet été, malgré les circonstances.
En effet, il s'est engagé, donc il devra peut-être au moins payer la moitié des frais.
Je me dis que
ça fait un beau party pour pas trop cher, pour ceux qui ont de l'argent, du moins. J'ai eu la voix cassée pendant 2 jours. À 58 ans, il bat le record du monde du cri le plus fort.
Oui, combien de décibels est-ce que vous pensez pouvoir atteindre en hurlant?
Ça dépend. Un coup de marteau sur un orteil, c'est clair que je vais dépasser un bon nombre de décibels.
Bon, c'est peut-être. En revanche, peut-être que vous resterez en dessous de Joseph McGrail Baitup, c'est son nom. Il est devenu, au début de l'été, le 19 juin dernier, l'homme le plus bruyant du monde. Cet Australien de 58 ans est entré dans le célèbre livre Guinness des records en criant à 122,4 décibels. Pour vous donner une idée, ce niveau sonore est comparable à celui d'une scie à chaîne ou d'un avion à réaction au décollage ou encore d'une sirène d'une ambulance à proximité. C'est très fort. Avec cette performance, il bat le record détenu jusqu'ici par Annalisa Flanagan, une institutrice d'Irlande du Nord qui doit bien se faire entendre de ses élèves et qui avait le titre depuis 1994. Elle avait crié à l'époque à 121,7 décibels. Elle reste la femme la plus bruyante du monde, donc elle reste dans le livre Guinness des records. Le quinquagénaire, lui, le nouveau recordman, a crié de toutes ses forces le mot « now », maintenant en français. C'était le 2 mai dernier dans un studio de radio de Canberra. La performance a été enregistrée par un ingénieur du son professionnel auquel on pense et qui, on espère, n'a pas trop souffert, dont les tympans n'ont pas trop souffert. Il y avait des témoins, bien sûr, avant que les fichiers ne soient envoyés au Guinness Book. Il m'a fallu, dit-il, 7 essais, rien que pour prononcer le mot « now » et j'ai eu la voix complètement cassée pendant 2 jours. Elle était rauque, c'était horrible, a-t-il expliqué. Cette habitante Canberra, qui travaille dans la vie de tous les jours comme dans l'entretien de climatiseurs, est aussi, et ça se comprend mieux, crieur public à titre honoraire. Un rôle qu'il exerce depuis 2017, qu'il juge plutôt amusant. Il consiste à faire des annonces lors d'événements communautaires, des fêtes scolaires, des salons automobiles. Il a d'ailleurs remporté dans ce cadre en 2024 un concours organisé par l'ancienne et honorable Guilde des crieurs publics australiens avec le cri le plus fort de « Oyez, oyez, oyez » qui avait été mesuré à 98 décibels. Il a donc fait bien mieux, 122,4 décibels, et c'est l'homme le plus bruyant du monde.
Bon, ben, on va s'entendre, quand on anime des émissions de radio ou quand on chante, la voix, c'est quelque chose qu'on protège. Et moi, je vous le dis, là, je ne crie pas. Et je ne vais pas dans les réceptions où c'est trop bruyant parce que ça nous force à parler plus fort. Puis le lendemain, on a la voix rauque, hein, fait qu'il faut faire attention à ça. Donc, on se reparle très bientôt, Louis.
À bientôt.
À bientôt.
Alexandre Desilets et sa chanson « Dernier cri ».
À la veille du déclenchement des élections au Québec, c'est prévu, je crois, jeudi, si j'ai bien lu ce que j'ai... Je me rappelle ce que j'ai bien lu ce matin. Alors, Radio-Canada.ca, une analyse de l'historique des députés québécois depuis 1923. Et ça montre donc une évolution marquée vers une plus grande diversité, tout en révélant certains écarts persistants avec la population actuelle. L'avancée la plus notable concerne la représentation des femmes, l'Assemblée nationale ayant atteint la zone paritaire lors des élections générales de 2018. Les partis plus récents, comme la Coalition Avenir Québec et Québec solidaire, affichent d'ailleurs les proportions de députés identifiés femmes les plus élevées. sur le plan professionnel, la fonction politique s'est considérablement démocratisée. Oh là là, il manque le reste de la page. Ah oui, il manque le reste de la page. Fait que je vais passer à autre chose. Je suis désolé, ça arrive. Alors, les paractualités, le nouveliste du 21 août. Le dernier bilan annuel de la direction de police de Trois-Rivières révèle une diminution générale de 2 % des crimes au cours de l'année 2025 dans un contexte de croissance démographique municipale. L'un des faits saillants concerne les interventions liées à la santé mentale et à la détresse psychologique qui ont enregistré une baisse de 8,1% des 4440 appels reçus. La direction du corps de police attribue notamment cette amélioration à l'efficacité de la patrouille nomade déployée sur le terrain auprès des personnes en situation d'itinérance. Dans la presse du 21 août, un article d'opinion signé par la chroniqueuse Nathalie Collard nous révèle donc que les activités de Boscoville, un organisme québécois, font vraiment du bon travail au niveau de la psychoéducation. L'équipe d'une trentaine de professionnels développe des programmes de prévention et d'intervention ciblant les jeunes de 0 à 25 ans sur des enjeux comme la santé mentale, la dépendance ou la gestion du temps d'écran. Parmi les façons de fonctionner, je ne sais pas ce qui se passe ce matin, la langue me fourche, figure le programme Versant, conçu pour venir en aide aux familles accompagnées par la Direction de la protection de la jeunesse afin d'éviter le placement des enfants. Dans ce cadre, une intervenante formée effectue 2 visites à domicile par semaine sur une période de plusieurs mois pour renforcer la structure du foyer et les compétences parentales. Et puis, implanté en projet pilote par la DPJ de l'Outaouais en 2021, le programme a permis de réduire la durée de prise en charge des familles de 4,4 mois en moyenne, tout en favorisant la stabilité du personnel sur le terrain. En raison de ces résultats, l'initiative, tiens, je l'ai finalement, devient permanente et s'étendra dans d'autres régions du Québec, notamment à Mauricie, dans le centre du Québec et en Gaspésie, fondé à l'origine en 1954 comme centre de réadaptation pour les jeunes délinquants. Boscoville s'est redéployé en centre d'expertise et forme aujourd'hui entre 1400 et 1500 intervenants par année. Bon, je vais vous le dire, j'ai échappé mes feuilles, c'est pour ça que je ne me retrouve plus. Ça arrive souvent. On dirait que t'as des journées comme ça, c'est le lundi matin, comme dirait Garfield. Mais après la pause, des entrevues super intéressantes. On va parler de l'après-cancer et on va parler aussi donc, de cet hommage à Claude Poisson qui aura lieu très bientôt au théâtre Denis Pelletier.
Vous écoutez Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Cause
La chanson recommencée de Romy.
Au Québec, une femme sur 8 recevra un diagnostic de cancer du sein au cours de sa vie et le taux de survie à 5 ans atteint aujourd'hui 89 %. Quand les traitements du cancer du sein prennent fin et que le système médical passe au patient suivant, l'entourage souffle. Mais pour plusieurs femmes, s'ouvre alors une période méconnue et parfois très solitaire, l'après-cancer. C'est ce que Diane Daniel appelle « l'abandon de l'après » dans son livre « L'après-cancer du sein, ce que personne ne dit après le rose ». Wow! Diane Daniel est également père aidante à la Ligue Rose de la Fondation du cancer du sein du Québec. Bonjour, Diane Daniel.
Oui, bonjour. Oui. Merci de me recevoir.
Ben, c'est un livre vraiment, je dirais, intéressant. Non, c'est exceptionnel pour moi. D'abord, je suis un homme. Alors, le cancer du sein, c'est pas vraiment quelque chose qui est très fréquent chez les hommes. Et surtout, ben, on connaît pas hein, ce que les personnes qui se font traiter doivent subir et puis l'abandon ou le sentiment d'abandon après. Alors, allons-y. Vous parlez d'un grand vide au moment de l'oncologie où l'oncologue annonce que tout est fini.
Oui, le grand vide, oui. Bien, parce que pendant des mois, toute notre vie est organisée autour des traitements. Il y a toujours un prochain rendez-vous, une prochaine prise de sang, une chirurgie, un traitement. Puis on a toute une équipe qui nous suit. Donc, c'est un tourbillon. On est porté par un calendrier bien rempli, hein, puis un objectif, là, traverser la maladie.
Oui, c'est vrai parce que bon, on connaît tous, tout le monde, presque tout le monde a une personne qui a vécu ça. Puis c'est vrai que hein, ça a l'air très réglementé, tout fonctionne, tout doit être suivi. La vie, finalement, elle est prise en charge par un système et bon, ça fonctionne comme ça. Dans le livre, vous abordez donc l'hormonothérapie et les effets secondaires, mais de quoi parle-t-on concrètement?
Bien, l'hormonothérapie, mais juste avant, je veux dire que tu sais, j'accuse pas les soignants en parlant de l'abandon de l'après. Je parle plutôt d'un vide de l'accompagnement.
Oui.
Tu sais, on est soutenu le temps pour nous aider à survivre, mais quand les traitements sont terminés, ben il faut réapprendre à vivre, il faut se reconstruire. Puis c'est cette étape-là, on la traverse toute seule.
Ouais, il n'y a pas de système de soutien. C'est bien. Oui, merci de le préciser. Donc revenons à ce que je voulais vous dire tout à l'heure. C'est l'hormonothérapie, les effets secondaires. De quoi parle-t-on concrètement là?
Bien, l'hormonothérapie est prescrite aux femmes dont le cancer est hormonodépendant afin de réduire le risque de récidive. Le cancer hormonodépendant, c'est celui le plus courant là après un certain âge. Donc, pardon. Donc, c'est un traitement qui réduit au maximum les hormones dont se nourrissait le cancer. Là. Puis l'hormonothérapie est généralement prise pendant 5 ans, parfois plus. Maintenant, c'est jusqu'à 10 ans. Là. C'est un tout petit comprimé par jour, mais ce petit comprimé-là, là, il y a des effets incroyables sur notre qualité de vie. Hein. Il peut y avoir des douleurs articulaires, des bouffées de chaleur intenses, des insomnies, de la fatigue, la fameuse prise de poids. Il y a aussi la sécheresse vaginale, une baisse de désir, il y a des difficultés dans l'intimité. Puis tous ces changements-là, ben ça atteint l'image de soi. T'sais. Vous savez, chaque matin, le miroir nous renvoie un corps qu'on ne reconnaît plus. Hein? C'est pas une question d'apparence, c'est toute l'estime de soi qui est vraiment ébranlée. Là. Puis tout ça, ces ressentis-là, ben c'est invisible. Les proches ne comprennent pas toujours pourquoi la femme ne va pas mieux. Alors qu'officiellement, ben, les traitements sont terminés, tout devrait bien aller. Donc, c'est les femmes ne vivent pas toutes les mêmes effets secondaires, mais celles qui en souffrent, elles ont vraiment besoin d'être entendues puis prises au sérieux.
Alors moi, ce qui m'a touché, c'est que votre ouvrage croise votre propre vécu, votre expérience de père aidante et un récit touchant, très touchant, Sophie. Vous avez fait donc une structure à 3 voix. Pourquoi?
Ben, j'ai choisi de l'écrire à 3 voix parce que je voulais pas seulement écrire un témoignage personnel. Je voulais que la lectrice puisse comprendre l'après-cancer du sein. Je voulais mettre des mots sur tous les ressentis. C'est que j'ai procédé, ben, il y a une voix, c'est mon propre vécu, ce que j'ai traversé, puis ce que j'aurais aimé savoir aussi.
Je vous interromps. Donc, je pense que je l'ai pas précisé. Vous êtes vous-même une survivante là, du cancer du sein, c'est ça?
Oui, absolument, absolument. Ben oui, ça part de mon vécu. J'ai vécu et je vis encore l'après-cancer du sein. Moi, j'ai eu un diagnostic en mars 2020. Alors, j'ai tout traversé toute seule à cause des confinements, là, de personnes accompagnant, etc. Bon, Alors, j'ai vécu ça, j'ai traversé ça toute seule, puis je suis toujours dans l'après, 6 ans après. Puis, il y a aussi mes 5 années comme père aidante à la Fondation du cancer du sein. Moi, je travaille auprès des femmes touchées par le cancer du sein, puis au fil des centaines de confidences, j'ai constaté que les mêmes réalités qui revenaient constamment, la peur, la fatigue, le sentiment de ne plus reconnaître son corps, l'estime de soi, les difficultés dans les couples, etc. Là. Puis cette impression surtout de devoir bien aller pour rassurer tout le monde, pour pas inquiéter le conjoint, pour pas inquiéter les enfants, les amis, ça c'est comme quelque chose qui appartient à la femme, hein, de prendre soin puis de pas inquiéter les autres. Puis donc après ça, après mon propre témoignage, ben il y a la voix de Sophie, comme vous avez dit. C'est un personnage de fiction, mais Sophie regroupe pas mal de femmes. T'sais. Alors, il y a elle, il y a son conjoint Alexandre, il y a son amie Marie-André, qui est intéressante aussi. Donc, la lectrice, dans cette histoire-là, elle peut se reconnaître quelque part. Puis Sophie, elle permet aussi de montrer ce qui se passe dans l'intimité, dans le couple, puis dans les silences.
Mm-hmm, c'est vrai, c'est vrai.
Puis, il y a une troisième voix, ben cette voix-là, ça s'adresse aux proches parce qu'on sait que on sait ce qu'on ressent, mais on trouve pas toujours les mots pour l'expliquer à nos proches. Et ça, c'est une partie pour leur expliquer, leur faire lire même ces parties-là si on peut pas leur dire dans nos mots. Là.
Tout à fait. Un ouvrage, en fait, important et unique, et surtout, comme vous l'avez dit, c'est de voir qu'est-ce que l'entourage peut faire. Parce que l'après-traitement, c'est sûr qu'on ne peut pas demander au système de santé de suivre tout le monde jusqu'au bout comme ça. Donc, l'après-traitement, qu'est-ce que les proches, la famille peut faire pour soutenir une femme là, durant cette étape-là?
Bien, je leur dirais aux proches, partez pas trop vite. Continuez d'être là, d'être présent. Tu sais, après les traitements, les fleurs, les messages, les encouragements, tout ça, ben, ça devient rare, là, tout ce qu'on avait. Bon, je pense à toi, bonne journée, tu sais, bon, je suis avec toi. Mais ça s'en va parce que les gens rentrent chacun dans leur vie, retournent à leur vie. Puis c'est à ce moment-là que la femme, elle commence à mesurer, tu sais, on commence à mesurer tout ce qu'on vient de traverser. Mm-hmm. Je dirais aux proches, partez pas trop vite, puis croyez ce qu'elle vous dit, tu sais, les plus grandes séquelles, là, c'est les plus, ils sont pas visibles. Puis l'autre chose aussi, c'est peut-être faire attention à ce qu'on dit. Bon, ben, tu as l'air à bien aller, maintenant c'est terminé, tu vas pouvoir tourner la page. C'est sûr que ça part d'une bonne intention, tout ça, là, mais ça peut donner à la femme l'impression que, ben là, faudrait qu'elle aille mieux, elle n'a plus le droit d'être fatiguée, inquiète. C'est que il faut faire un petit peu attention à ça. Ben, t'sais, juste simplement dire, ben, comment tu vas aujourd'hui?
Eh oui, pourquoi pas?
Puis hein? Prendre le temps de l'écouter, d'écouter sa réponse. C'est important.
Faire preuve de sensibilité. Puis en fait, je trouve que c'est un message qui est tellement précieux dans ce livre-là. Et je pense que c'est un message aussi qu'on pourrait mettre ou on pourrait appliquer à plein d'autres situations comme ça. J'aimerais rappeler donc que l'après-cancer du sein, ce que personne ne dit après le rose, c'est disponible maintenant. On peut se procurer en librairie, c'est ça?
Oui, il va être en librairie bientôt, mais présentement, il est sur Amazon, puis il s'en vient en librairie, là, ce ne sera pas très long.
Bon, mais une lecture qu'en fait, moi, qui m'a beaucoup interpellée. Merci beaucoup, Diane Daniel, d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Ben, ça m'a fait plaisir. Merci de m'avoir reçu.
Merci, au revoir.
Bonne journée.
La valise derrière, que demain file pas comme hier. Lâche avant que ça dégénère, que demain file pas comme hier. Docteur, dites-moi, est-ce que je suis brisé? Pour en arriver là, j'ai tout essayé. Maintenant que je me trompe des pas, comment réguler? Trop tard, sans des chaque cellule de mon corps, revisiter mon histoire. Pourquoi ça s'est dit encore? Laisse la valise derrière, que demain file pas comme hier, que demain file pas comme hier. Sans foi.
toujours le fond du puits, tous les comptes à rebours. Recommence ici, il est temps que je fasse un move.
La chanson Demain de Simon Lachance et de Racasse.
La création de Claude Poisson est mise à l'honneur au théâtre Denise Pelletier. Si le public le connaît surtout pour ses mises en scène et ses 11 années à la direction artistique du lieu, on oublie parfois l'auteur qu'il était. Je rappelle que Claude Poisson, directeur artistique du théâtre Denise Pelletier, est décédé le 6 juin 2025. Dans le cadre d'un cycle de 3 spectacles intitulé « Infiltrer les rêves », des œuvres de Claude Poisson sont mises en lecture à la salle de Fred Barry. C'est donc pour en parler, on reçoit la metteuse en scène de Dépasser la nuit. C'est un des 3 spectacles. En fait, c'est la 3e mise en lecture, qui en version plutôt cabaret, que nous présente donc Anna Sanchez, la metteuse en scène. On dit une metteuse en scène que vous préférez ou la metteur en scène?
Metteur en scène, c'est très bien.
C'est très
metteuse,
bien.
Peu importe.
Oui, c'est parce que parfois on met des E, puis on l'entend pas beaucoup, puis je trouve que ça invisibilise un peu, puis je fais beaucoup attention à ça quand je fais de la radio. Alors Anna, merci beaucoup d'être avec nous.
Bien, merci beaucoup pour l'invitation.
Oui, alors là, je vais le dire, tout le monde, mes feuilles sont en ordre. J'ai échappé ma pile de feuilles tout à l'heure, puis c'était vraiment pas facile de travailler. Alors d'abord, qui était Claude Poisson? Je viens d'en parler, mais qui était-il, surtout pour vous?
Ben Claude Poisson, c'était moi j'ai au moment où il est décédé, j'ai comme découvert à quel point il avait été important pour beaucoup de gens, et pas seulement pour moi, parce que je pense qu'il avait un lien privilégié avec énormément de gens. C'était un directeur de théâtre, donc le théâtre Denise Pelletier, mais aussi un metteur en scène, un auteur, mais c'était aussi un vrai regard sur ce qui se faisait et ce qui émergeait comme théâtre, comme dramaturgie au Québec. Donc, c'était vraiment un point de référence. Puis, ça, on dirait que je le savais, mais que ça a été mis encore plus en lumière depuis son décès. Et on s'est rendu compte que vraiment, il a été la première chance à énormément de gens, dont moi. Moi, c'est mon premier spectacle, ma première mise en scène, c'est lui qui m'a dit oui, c'est lui qui m'a ouvert les portes de son théâtre. Donc c'était vraiment ça, Claude, c'était quelqu'un qui savait regarder puis qui savait tendre la main surtout.
Alors comment avez-vous vécu son départ l'an dernier?
C'est sûr que ça a été un choc parce que c'était très très soudain. Ça a été un gros choc. On a senti pour tout le milieu théâtral, vraiment là, pour tout, ça a créé une sorte de rassemblement. Puis c'est drôle parce que je me le disais, parce que bon, je suis beaucoup là-dedans à cause de la lecture justement, et je me disais il y a quelques jours que avec tout ce qui est mis en place pour l'honorer, j'avais comme une sensation qui était encore là, qui était encore très présent, très vivant parmi nous. Voilà.
Il a tellement eu un impact, hein, c'est vrai, sur tout le monde théâtral, partout au Québec, on peut le dire. Pourquoi avoir choisi le format de café-théâtre pour faire entendre les textes de Claude Poisson?
C'est un format qui m'a été un peu proposé parce que, on avait 3 soirées. Les 2 premières soirées sont des textes qui vont inclure en intégralité, donc la première soirée, le 26, c'est Les enfants d'Irène, et le 27, Si tu meurs, je te tue. Mais donc, je pense qu'il y avait une volonté de parcourir le plus possible, en fait, la dramaturgie de Claude, qui est vraiment passée par toutes sortes d'étapes. Il y a beaucoup de coécritures, il y a des chansons, ça passe par toutes sortes de styles, ça va des années 70 à 2021. Donc, je pense qu'il y avait une volonté de, par ce cabaret, ce collage, de vraiment offrir un peu une vision sur la panoplie de choses que Claude a écrit durant sa vie.
Alors, c'est tout un défi parce que vous avez dû construire un spectacle à partir de textes qui ont été écrits sur près de 30 ans. Comment vous êtes pris pour faire ça?
Tout d'abord, il y a deux personnes qui se sont occupées de construire une sorte de collage, de montage avec tous les textes. C'est Sarah Berthiaume et Alexandre Cadieux, donc qui ont fait vraiment un travail colossal de lecture, de recherche, auquel j'ai participé, mais un peu plus vers la fin en tant que dernier regard. Donc, c'est vraiment eux qui se sont occupés là, de sélectionner. C'était très drôle, ils m'envoyaient des photos là, de justement, c'était très collage. Là, ils découpaient dans les textes littéralement parce qu'il n'y a pas tous les textes qui sont numérisés, c'est pas tous les textes qui sont archivés. Donc, il y avait un vrai travail de recherche pour aller déterrer certaines affaires. Donc, ça a été ça d'abord. Je pense qu'il y a eu une volonté de regrouper les textes autour de thèmes. Donc, Claude parlait beaucoup de la mémoire, l'amour, la famille, l'amitié. Donc, ça a été de sélectionner autour de ces thèmes-là, puis ce qu'on avait envie de revisiter et pour offrir aussi une différence entre deux styles. Il y a du comique, il y a du plus dramatique. Voilà, ça a été fait en ce sens-là.
Vous avez une distribution très intéressante. Je nommerai pas tous, là, mais donc c'est des comédiens qui doivent passer d'un extrait à l'autre, qui sont différents. Oui. Comment on s'y prend là, pour faire ça?
Ben c'est très simplement là, c'est le format de la lecture permet beaucoup de choses parce que c'est comme si le format de la lecture, ça invite vraiment le spectateur à donner de son imaginaire puis à participer à la création de l'imaginaire avec les acteurs. Donc il suffit d'un changement d'ambiance, on annonce les textes aussi entre chaque extrait, donc c'est assez clair. La différence, la progression. Puis, ce sont des acteurs de haute voltige qui seront vous impressionner par tous leurs changements.
Puis, je pense je devrais peut-être vous demander de nous faire un peu la différence entre une mise en scène puis une mise en lecture. Ça a l'air fou de poser la question, mais je me demande pour ceux qui ne le savent pas, c'est quoi?
Ben, en fait, une mise en lecture, c'est on va lire les textes. Donc, les comédiens ont les textes avec eux sur scène. Des fois, on utilise même des lutrins, tout ça. Et une mise en lecture, c'est vraiment pour permettre d'organiser tout ça, ajouter un peu de jeu, quelques éléments de mise en scène, puis de diriger tout ça pour que ça peut prendre toutes sortes d'avenues. Mais c'est pour diriger le jeu des acteurs, pour donner un sentiment d'unité à tout ça. Mais oui, on garde en fait le principe de la lecture. Parfois même, il y a des didascalies qui sont lues, donc des actions que les personnages font. Donc, c'est vraiment comme si les spectateurs étaient conviés à une sorte de lecture très, très vivante.
Alors, qu'est-ce que raconte ce spectacle sur l'héritage de Claude Poisson?
C'est ça, comme... C'est des textes qui traversent différents thèmes, donc, mais qui sont présents dans énormément de textes de Claude, donc la mémoire, l'amour, l'amitié, la mort aussi. Donc, on traverse un peu tous ces thèmes-là dans l'idée que on est une gang d'interprètes, de gens qui redécouvrent un peu ces textes-là. Le spectacle s'appelle « Dépasser la nuit » en hommage à un de ces textes qui s'appelle « Passer la nuit ». Donc, on reprend un peu cette idée-là de traverser une nuit ensemble puis de lire, de redécouvrir ces mots-là.
Alors, je rappelle donc, c'est trois soirs, hein, trois représentations.
Oui.
Vous êtes responsable de la troisième représentation.
Oui.
Et je vais juste...
Ça va être la meilleure soirée, c'est à celle-là.
J'adore! Ça, j'aime ça quand les gens ne se gênent pas pour dire ça. C'est très parfait. Alors, je vais rappeler, non, vous êtes bien correct. Il faut s'amuser dans la vie, puis je trouve que des fois, on est trop sérieux, puis à la radio, on peut se permettre un petit sourire comme ça. Alors, je vais juste rappeler les dates. Le 26 août, c'est un mercredi, si tu meurs, je te tue. Le 27 août, les enfants des reines, évidemment, dépasser la nuit. Ça, on m'a dit que c'était le meilleur spectacle des trois.
Oui,
le Fête-Vitou.
C'est
au théâtre Denise Petit. Puis les heures, je pense que c'est à 19h30 et les billets sont de 30 $. Mais il y a un combo. Vous achetez les trois billets, 78 $. C'est sur le site du théâtre Denise Petit. Ah, mais c'était vraiment, charmant de parler avec vous, Anna Sanchez.
Oui,
merci beaucoup.
Oui, merci beaucoup.
Et puis le mot de campagne, on ne peut pas dire ça à la radio, mais on le dit comme ça.
On le prend.
OK, au revoir.
Merci, au revoir.
Mes cicatrices sont plus profondes que je ne le laisse paraître. D'ici à ce que je me rétablisse, verras-tu un manche vert? J'ai rêvé d'un psychopompe, ce n'est pas moi qui l'attendais. Que pourrait-il faire d'un phénix? J'ai déjà l'enfer dans la peau, il me connaît.
Full Phoenix, c'était Zéa Kala.
Après la pause, nous allons encore parler de théâtre, cette fois-ci avec Fabien Mercier, directeur artistique Les Chapelles Scènes Contemporaines, je devrais dire co-directeur artistique, pour parler de la nouvelle saison, puis on va le découvrir aussi parce qu'il est tout nouveau, enfin, on prend le temps de savoir qui il est aussi. Et ben oui, on termine l'émission, on va vous parler du Canada qui deviendrait le 51e État des États-Unis. Ben oui, c'est un roman dystopique qui s'appelle Le 51e, écrit par l'auteur de Polar, entre autres, Hervé Gagnon. Et puis, ben, on est un petit peu chanceux, je pense. C'est la première entrevue qu'il donne sur son livre qui sortira le 11 septembre prochain. Il me semble que c'est une date aussi qui veut dire quelque chose, hein, dans l'imaginaire collectif. Je termine en vous parlant de la météo aujourd'hui. Ben, ça va être de la pluie avec un petit peu de soleil. Ah, ça dépend où. Donc, toute la journée, presque partout au Canada, sauf en Alberta et en Colombie-Britannique. À tout de suite.
Vous écoutez Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
C'était moi, Chouchou. plus belle des étoiles. Parmi les autres, je vois que toi. Si tu te sens seul, dis-moi. Il reste une place auprès de moi. Le projecteur sur toi, c'est fou comment tu brilles dans le noir. T'es la plus belle mademoiselle. Comment j'aurais fait pour pas te voir? Je que le passé, c'est le passé. Mais entre nous, je peux pas dire ce qui s'est passé. Je voudrais pouvoir rattraper le temps. Pour que tu partes, dis-moi qu'est-ce que j'ai fait, bon sang.
Qu'est-ce que j'ai fait? Je
sais que le passé c'est le passé, mais y'a qu'à toi que je peux me confier. Tu sais, je viens parano des fois. Quand je reste seul, direct, je pense à toi. Et ça fait clic, 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 pam, pam, pam. Je braque ton petit cœur, ma chérie, t'es trop séduisante. T'étais mon chouchou, je sais pas ce qui s'est passé. Je repense à toi chaque jour, j'aimerais recoller ce qui est cassé. Tu me dis que c'est fini, qu'il y a plus de nous. Je fais mieux t'effacer. Je sais pas à quoi tu joues, mais je peux pas oublier le passé.
Oublie le passé, t'étais mon chouchou, je peux pas t'effacer.
T'es la plus belle des étoiles, parmi les autres je vois que toi. Si tu te sens seul, dis-moi, il reste une place auprès de moi. Le projecteur sur toi, c'est fou comment tu brilles dans le noir. T'es la plus belle mademoiselle, comment j'aurais fait pour pas te voir. Je sens que tu caches quelque chose, c'est bon, me mens pas. T'es plus du tout comme avant, je sais pas ce qui se passe, je te reconnais pas. Je sais que parfois je suis con, mais je reste le premier dans ton cœur. Si les minutes sont des secondes, je te ferai l'amour pendant des heures. Je sais que le passé c'est le passé, mais y'a qu'à toi que je peux me confier. Tu sais, je viens parano des fois. Quand je reste seul, direct, je pense à toi. Et ça fait clic, 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 pam, pam, pam. Je braque ton petit cœur, ma chérie, t'es trop séduisante. T'étais mon chouchou, je sais pas ce qui s'est passé. Je repense à toi chaque jour, j'aimerais reconnaître ce qui est cassé. Tu me dis que c'est fini, qu'il y a plus de nous. Je fais mieux t'effacer. Je sais pas à quoi tu joues, mais je peux pas oublier le passé.
Ça fait clic, 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 pam, pam, pam. Je braque ton petit cœur, ma chérie, t'es trop séduisante. Ça fait clic, 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 pom, pom, pom.
C'était Yann et la chanson Clic Clic Pompon.
Bon, on approche de septembre, je sais, hein, c'est comme si je vous dis on arrive à la fin de l'été. En fait, les classes commencent bientôt, il y en a qui rentrent aux écoles aujourd'hui. Donc, on va parler de rentrée culturelle parce que quand on dit septembre, c'est rentrée culturelle. Puis on va continuer notre tournée là, des rentrées. Aujourd'hui, on va parler de la Chapelle Sainte Contemporaine et on reçoit son nouveau directeur artistique et co-directeur général, Fabien Marcil. Bienvenue à l'émission.
Merci beaucoup, merci vraiment beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir d'être ici avec vous ce matin.
Bien, c'est plaisant de te recevoir. Donc, tu as pris tes fonctions cet été à la direction artistique La Chapelle.
Oui.
De La Chapelle. Comment abordes-tu ce travail ou cette prise d'un poste? Ouais.
Bien, il faut dire que moi, La Chapelle, c'était vraiment le théâtre où je voulais programmer. Ouais. Ça fait quand même 12 ans que je suis dans le milieu culturel. J'ai travaillé dans plusieurs organismes à Montréal, à l'international aussi, en Belgique, au Brésil. J'ai fait de la tournée aussi, fait que j'ai comme pu traverser beaucoup de lieux. Mais quand je revenais à Montréal, La Chapelle, pour moi, c'était quand même le lieu que je trouvais intéressant parce que c'est un lieu qui est alternatif, expérimental, mais qui reste accessible aussi. Puis on peut vraiment programmer comme une panoplie de pratiques artistiques. La question des disciplines artistiques ne se pose pas vraiment. Fait que c'est pas comme un théâtre où on va juste présenter, entre guillemets, du théâtre ou de la danse ou de la musique. Ça va vraiment être un mélange de tout ça. Puis des fois, c'est aussi des pratiques artistiques qui sont à la limite, là, mettons, du théâtre et de la musique ou de la danse et du théâtre, et etc.
Il y a souvent de belles surprises comme ça, de mélange des genres. C'est un peu péjoratif, mais de genres artistiques différents.
Moi, je trouve qu'il faut mélanger les genres. Ouais. C'est pas péjoratif.
Parce que en radio, peut-être mélanger l'humour et l'information, c'est peut-être pas toujours bienvenu. Mais bon, ça peut arriver. En fait, tu viens de me parler de ton parcours artistique qui est très, très ancré dans les pratiques émergentes. Mm-hmm. On parle des esthétiques queer, que j'ai lu, l'interdisciplinarité. Mm-hmm. Alors, c'est quelle empreinte que tu souhaites amener donc au théâtre ou à la programmation de La Chapelle?
Oui, il faut savoir que moi, ça fait une semaine et demie là, que je suis en poste pour vrai.
J'en pose des questions à la semaine.
Non, mais c'est parfait, j'adore ça. Je suis rentré vraiment très, très récemment. On avait le lancement de la saison jeudi dernier.
Oui.
C'est comme un gros défi à réaliser en une semaine et demie, mais ça s'est super bien passé. Le directeur qui était en poste avant, Olivier Bertrand, était là pendant 10 ans. Mm-hmm. Lui, il était français. présentait aussi, je veux dire, de l'interdisciplinarité, des pratiques queer, tout ça. Mais j'espère juste aller un peu plus loin dans défaire un peu les limites disciplinaires.
Ouais.
Fait que comme je le disais, un petit peu plus se concentrer sur la pratique artistique, fait que ce que les artistes proposent, puis d'où ils viennent, ils sont en relation avec quel genre de tradition, quel genre de culture, c'est quoi un peu les futurs qu'ils imaginent aussi, mm-hmm. Puis les différentes manières de vivre qu'ils peuvent nous offrir, plus se concentrer là-dessus que sur, par exemple, OK, la tradition théâtrale, la tradition de la danse, la tradition de la musique, etc., qui n'est pas inintéressante, vraiment pas. Moi, je trouve qu'il y a des pièces qui dialoguent entre le passé, le présent et même qui ouvrent des portes vers le futur. Moi, c'est ça que je trouve passionnant. Fait que j'espère vraiment aller dans ce sens-là. Puis c'est certain qu'en étant une personne queer moi-même, je vais avoir une sensibilité pour des pratiques qui sont queer, mm-hmm. Qui remettent en question aussi ce que ça veut dire être queer, parce que c'est très, très large.
On n'ose pas le définir, en fait. Hein?
On n'ose pas trop le définir. Puis c'est pas non plus seulement attaché à la question de l'orientation sexuelle. Puis c'est ce que je trouve vraiment le fun, c'est que peut-être pour moi, La Chapelle, c'est un peu un espace qui est queer. Mm-hmm. C'est pour ça que je dis que c'est comme un lieu alternatif, que c'est aussi expérimental. J'ai l'impression que ça se redéfinit constamment. Puis un truc aussi que j'aimerais beaucoup, beaucoup explorer, c'est ouvrir des ponts entre l'international, le local, le national. Fait que permettre à des artistes, par exemple à Belgique, ouais. De venir ici, de présenter un travail. Puis s'ils viennent, j'espère vraiment pouvoir leur offrir la possibilité de rester un peu plus longtemps, puis peut-être offrir des ateliers aux artistes montréalais aussi, pour qu'il y ait un réel échange. Je trouve que les théâtres ont une responsabilité aussi de développer la pratique artistique locale. C'est un truc que j'aimerais beaucoup, beaucoup développer dans les prochaines années.
Bon, je sais que tu es en poste depuis une semaine et demie, tu
Exactement.
Me dis. Cette programmation-là, j'imagine qu'elle a été pensée d'abord par le prédécesseur.
Oui.
Quelle a été ton influence sur cette programmation?
Mais en fait, c'est ça. Moi, j'ai aucune influence sur la programmation de cette année. Je suis le porte-parole.
Porte-parole. OK. Ouais. Mais c'est bien correct. Parlons de ça. Je posais la question parce que je me disais, hey, j'espère qu'il n'a pas fait la programmation en une semaine et demie. Ça sera ça.
Oh my God. Non.
Alors, parle-nous de cette programmation. Qu'est-ce qu'on va voir cette année?
Il y a un grand mélange de plein de choses. Il y a des œuvres qui ont déjà été présentées qui reviennent parce qu'elles ont été un grand succès. Puis qu'on trouve que c'est important de les représenter. Il y a beaucoup de créations aussi. C'est aussi un mélange des communautés linguistiques. Ouais. La Chapelle, ça reste comme collé sur la Maine. Fait qu'on a aussi comme mandat de présenter des œuvres et anglophones, et francophones, et multilingues. On offre aussi des représentations surtitrées. Fait que ça permet au public aussi de se mélanger. On va retrouver des pièces qui... Mais c'est certain qu'ils vont traiter de l'anxiété collective qu'on peut ressentir en ce moment. Il y a beaucoup de choses dans l'air. C'est assez chargé. Fait que les artistes...
On parle donc du nuage orange qui se promène un peu partout sur la planète.
Il y a le nuage orange qui se promène un peu partout. On a aussi la crise climatique.
Tout à fait.
On a les conflits armés.
Ça va pas bien. Alors, rapidement, j'aimerais ça qu'on parle de qu'est-ce qu'on va voir dans les premiers spectacles qu'on va voir.
Oui. Donc, si on se concentre sur peut-être la première partie de la saison, mm-hmm. Nous, on ouvre dès mercredi avec les salons acoustiques.
Okay.
Donc, Virginie B va ouvrir la saison de la Chapelle. Elle a sorti un album dernièrement qui s'appelle Astral 2000, qui est très comme funk pop, très comme un peu... électrique, un peu groovy, mais là, elle va le traduire plus au piano, guitare, voix.
Un peu plus acoustique, là. Ouais.
C'est très acoustique. Ouais. Fait que ça, j'ai très hâte de voir ça. Par la suite, ça va être Antoine Corriveau, ce jeudi, qui va poursuivre. Donc, encore une fois, il va traduire sa musique en salon acoustique, donc piano, guitare, voix. Fait que ça, c'est nos deux premiers spectacles cette semaine. J'ai très, très hâte d'y aller. Je pense que ça va être un vraiment très beau moment. On fait ça aussi en collaboration avec Coup de cœur francophone.
Oui.
Donc, c'est toujours un plaisir de collaborer avec eux. Par la suite, début septembre, on va avoir La Fratrie, qui est une compagnie théâtrale de Montréal, qui célèbre leur 10e anniversaire, puis qui vont présenter une pièce d'Alex Trahan, Nos espoirs furieux. Mmh. Ce qui est vraiment chouette avec ce groupe-là, c'est qu'ils vont vraiment investir La Chapelle pendant environ 2 semaines, puis ils vont présenter une nouvelle création, mais aussi ils vont organiser des activités pour célébrer leur anniversaire. Fait que ça va être super dynamique. Ça vaut vraiment la peine de suivre un peu ce qui va se passer pendant ces semaines-là avec La Fratrie. Puis par la suite, je peux aussi partager... on fait une collaboration, une co-diffusion avec le Festival Phénoménal Montréal. qui est un festival qui va vraiment dans les marges,
ouais.
Que j'adore personnellement. Et on va présenter un programme double de Joël Lavoie, qui est un grand musicien électronique local, et de L.E.Y., qui est un nouveau projet du metteur en scène Christian Lapointe, de la créatrice Laurence Dauphinet et du dramaturge britannique Simon Stevens.
Ouais.
Puis ils vont, dans le fond, présenter un spectacle avec des projections vidéo de Sabrina Raté et aussi Mikhail Bielinski, qui est une artiste sonore et théâtrale très connue qui fait les back vocals. On a eu la chance d'avoir un extrait de cette œuvre-là au lancement de jeudi dernier. C'était vraiment merveilleux. Donc ça, c'est vraiment une soirée, je dirais, à pas manquer. Là. Ça va être assez spécial. Puis si je peux terminer...
Oui.
Pour peut-être la première partie de la saison, là, on a 19 spectacles en tout cette saison, fait qu'il y en a beaucoup. Mais je peux aussi vous parler d'un spectacle qu'on va présenter en co-diffusion avec La Mèche Courte, qui est un festival jeune public. Ça fait peut-être comme... 2 ans qui existent environ. C'est neuf, c'est vraiment le fun, c'est super dynamique. On va présenter une co-création de Julia B. Laperrière et de... Là, le nom m'échappe rapidement.
C'est pas
rapidement.
Avec moi qui ai l'idée, non?
Voilà, Sébastien Provencher, que je connais très bien, qui est un ami. Je ne sais pas pourquoi, des fois,
ça nous échappe. Il va t'en voir tantôt.
Mais ils vont présenter une pièce qui s'appelle « Après le déluge ». Ça, c'est une pièce jeune public, mais qui est quand même très, très le fun, qui a un petit peu de musique électronique derrière, un univers visuel super intéressant. Je pense que c'est vraiment une belle occasion là, de sortir en famille puis d'aller voir une pièce.
Ben, ça a l'air d'une saison vraiment... extraordinaire, hein, avec une vocation pluridisciplinaire. Voilà le mot que je cherchais tout à l'heure.
Oui.
On a hâte de voir ça. Fabien, si on veut des informations, on va sur le site web, évidemment, de La Chapelle Scène Contemporaine.
Voilà.
Puis, on a très, très hâte de voir ce qui va se passer cette saison et peut-être la prochaine saison, voir celle que tu auras signée.
Ben oui, ça ferait plaisir de revenir la saison prochaine.
Ça sera toujours bienvenu. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
On s'en va amuser.
Merci.
C'était Je vis pour le moment, une pièce de Soul of Zoo et Al Radic.
On aurait voulu faire ça d'avance, puis des fois la réalité dépasse la fiction. Nous, on a prévu cette entrevue il y a quelques semaines, puis c'est sur un roman qui tombe à point dans l'actualité. On sait, hein, les tensions commerciales et diplomatiques s'intensifient entre Ottawa et Washington, avec des menaces d'annexion à peine voilées de la part de Donald Trump, qui, comme on le sait, multiplie les mensonges à l'égard de son principal partenaire commercial, le Canada. Bien, cette fiction d'anticipation prend une résonance troublante dans l'actualité. Nous recevons donc l'auteur Hervé Gagnon pour discuter de son roman 51e Canada 2038, publié aux éditions À lire. Hervé Gagnon, merci d'être avec nous.
C'est un grand plaisir.
Je pense qu'on est une des premières entrevues, puis je m'en fais un petit... je suis un petit peu fier de ça, là, parce qu'on parle de quelque chose qui est vraiment dans l'actualité. Ce polar dystopique où le Canada est devenu le 51e État américain en 2029, vous attendiez-vous, Hervé, à ce que cette réalité rattrape aussi rapidement la fiction?
Ça, c'est la grosse question, hein. Je vais vous répondre comme ça. Je suis historien de formation. Mm-hmm. Je suis habitué à suivre les relations de causalité, les relations de cause à effet, et puis déterminer pourquoi telle chose s'est produite et quels en étaient les facteurs. Dans le fond, j'ai fait un exercice de prospective historique, c'est-à-dire que j'ai appliqué la même méthode à un avenir immédiat, puis en me fiant à ma familiarité avec les liens de causalité, mm-hmm. ben on arrive à quelque chose de plausible. Est-ce que je m'y attendais? Oui. Est-ce que je l'espérais? Non. Parce que, ben, quelque part, oui, je veux vendre des livres, là, je suis content que ouais. ça marche, mais en même temps, je n'ai pas envie qu'on devienne le 51e État.
On espère que ça va s'arrêter à un moment donné, là, parce que là, ça commence à ressembler au roman un peu. Là.
Ben, les événements de la fin de semaine me donnent raison à date.
Ben oui, parce que je vais quand même faire un petit résumé de... On vous promet, on divulgue pas.
Ne divulguez pas la fin, c'est très important.
Alors, dans le livre, le président Daniel Fromm Jr. étrangle, en fait, là, ça vous rappelle quelqu'un, étrangle l'économie canadienne à coup de tarifs douaniers. Ça me rappelle un peu ce qui se passe présentement avec les déclarations à l'emporte-pièce et les surtaxes imposées par Donald Trump. Je le dis encore, est-ce que le réel dépasse ce que vous avez imaginé dans votre roman?
Il ressemble beaucoup.
Ouais.
En fait, je ne dirais pas que ça dépasse. La réalité n'est pas pire que la fiction, mais la fiction n'est pas non plus pire que la réalité. Mm-hmm. On est au début de mon roman. On est au moment où les premiers ministres disent qu'il faut réagir.
Ouais. Ouais.
Ils vont réagir dans mon roman de très mauvaise façon. Et le pire, c'est qu'il y a déjà deux premiers ministres depuis samedi qui ont suggéré cette façon-là.
On parle de quelle façon déjà?
Je ne le dirai pas.
Okay. Moi non plus dans ce cas-là.
Mais elle est très évidente une fois qu'on y a pensé.
Oui, bon. Tout à fait. Votre récit met en scène un Montréal dévasté à faire peur, qui est sous le contrôle de la Garde nationale. Pourquoi avoir choisi Montréal pour centrer cette histoire-là?
Comment dire, Montréal est déjà un peu dévasté. C'était pas faire un gros exercice d'imagination que de pousser un peu plus loin le nid de poule et les rues défoncées.
Mais là, c'est des nids d'hippopotames, là. C'est pas de
oui,
bon sens.
Mais tu sais, je veux dire, quelque part, c'est juste 12 ans de mauvais entretien de plus, là, tu sais. Mais... et j'avais besoin aussi d'avoir un décor qui était familier aux lecteurs québécois.
Oui, c'est vrai.
J'aurais pu mettre ça à Québec, mais tu sais, maintenant, il y a combien de grandes capitales au Canada? J'avais le choix de Toronto, Vancouver, Montréal. J'ai choisi celle qui était la plus centrée. T'sais.
Moi, j'avoue, là, je vais le dire tout de suite à ce moment-ci. Et quand j'ai lu votre livre, d'abord, c'est pas, j'étais fâché à chaque fois.
T'as une foule dans le dos un peu aussi, hein?
En fait, ça, oui, ça me faisait peur, puis en même temps, ça méritait. Puis je dis, j'aime pas ça. Puis là, je me dis, j'aime le livre, c'est juste que l'histoire était... Ouais. Et on n'est pas capable d'arrêter.
Mais c'est le pari qu'un auteur prend, des ouais. fois, d'écrire une chose dont il sait très bien qu'elle va déplaire à tout son public.
Et que les gens vont lire pareil.
Mais que les gens vont le lire quand même parce que mon histoire déplaisante est une bonne histoire. T'sais, c'est comme le journaliste qui dit « Je viens de déterrer quelque chose d'affreux. »
Ben oui.
Mais c'est un affreux qui va intéresser les gens.
Tout à fait.
Alors moi, ce que je voulais, c'est dans le fond, le sous-titre qui est là, « Canada 2038 », c'est pas le mien. Moi, j'avais suggéré un avertissement.
OK.
Parce que dans ma tête, c'est ce que ce livre-là, ce roman-là est, c'est un avertissement. Les choses pourraient virer comme ça très facilement. Bon, on pourrait perdre tout ce qu'on tient pour acquis.
Il y a quand même... Il y a deux enquêteurs... Excusez-moi. Il y a deux enquêteurs, Fils Aimé et Fourlet, qui font face à un groupe de résistance nommé, écoutez bien ça, le FLQ 1837. Alors, quel rôle joue l'identité québécoise, la culture francophone dans cette lutte contre l'assimilation des États-Unis? Puis on vient d'entendre, hein, ils aimeraient bien qu'on se débarrasse des clauses linguistiques.
Ouais, mais ça, ils l'ont proposé parce qu'ils ne voulaient pas d'accord. Ils ont proposé ça à la dernière fraction de seconde, en sachant très bien que c'était une ligne rouge à ne pas traverser, même dans une administration d'incompétents. Il y a quelqu'un de compétent quelque part qui les avait avisés que ça, c'était pas sur le... C'était pas sur la liste de négociations possibles. Mm. S'ils l'ont fait, c'est parce qu'ils n'en voulaient pas. Ils voulaient imposer des tarifs. Ce qui aussi me donne raison. Ouais. Mais bon, pourquoi la culture... Quel rôle joue la culture québécoise là-dedans? Ben, c'est ce qu'on perd. J'ai mis en scène un Montréal et un Québec qui se louisianisent. Et la raison à ça est très simple. C'est que avec les réseaux sociaux, avec... On est dans une ville et on est dans un pays occupé. C'est un 51e État, mais il n'est pas encore libre. Pour l'instant, il est occupé par la Garde nationale, par le Secret Service, etc. Ce qui fait que finalement, ça, ce qu'on voit là-dedans, c'est que ça prend une génération, peut-être deux, pour ne plus avoir d'identité. Puis il y a une scène là-dedans qui est crève-cœur, où le petit-fils de l'enquêteur revient à la maison tout fier de dire « Papi, j'ai appris quelque chose par cœur aujourd'hui. » C'est un petit bout de, ouais. un petit bout de chou de 5-6 ans. Et qui récite en anglais le Pledge of Allegiance.
Wow.
Pour lui, c'est la réalité. Et c'est seulement la génération d'après la fille du personnage. Yeah. Alors la fille se rappelle d'avant. Le petit-fils ne s'en souvient pas, ne l'a pas connu. C'est tout ce que ça prend pour cesser d'exister. Ça prend juste un pouvoir oppressif, une coupure par rapport au passé, et voilà.
Il y a quand même une...
Je suis réjouissant ce matin. Hein?
Oui, mais ben, en fait, non, je vais quand même dire que c'est pas tout noir non plus dans ce roman. Il y a une résistance,
ouais.
avec plus ou moins de succès, puis je laisse ça là parce que je voudrais pas... dire, on veut pas dire la fin quand même. Là.
C'est des beaux personnages jouissifs, ceux-là. C'est,
ah, oui.
Je les aime énormément, moi. Ils se font pas d'illusions non plus.
Non.
Hein? Non. Ils donnent des petits coups, des petites tapettes à gauche et à droite, ils pincent un peu, mais ils savent très bien qu'au final, ils vont pas changer grand-chose.
Ouais. Hein? Mais c'est quand même des personnages, et même le personnage de Fourlet, qui lui a de la difficulté à arrêter les gens de la résistance parce que il y a un combat intérieur là-dedans. Là.
Il les trouve sympathiques.
Il est d'accord avec eux.
Il éprouve de la sympathie, ouais. il les aime, il trouve qu'ils ont du courage, il voudrait avoir leur âge.
Ouais.
Tu sais, on écrit les personnages de ce qu'on est devenu. Hein, je veux dire, moi, j'ai plus 20 ans, là, j'ai plus 30 ans, je n'ai même plus 50. Mm. Puis j'aurais peut-être pas le courage d'aller faire ce que ces jeunes-là font dans l'histoire. Mais c'est beau qu'ils le fassent.
On le fait par procuration.
Hein? Ben, c'est ça, on invente des histoires à la place.
Alors, Mike Carney a évoqué récemment que les attaques contre la langue française, les subventions culturelles dans les négociations, est-ce que la culture serait le dernier rempart contre l'annexion économique et politique?
Ça, c'est la grande question. Mais ça dépend. Je veux dire, moi, la façon dont je l'ai tissé sur ce récit-là, il faut à peine, comme je le disais tantôt, deux générations pour la perdre, ta culture. Mm. Lorsque le personnage principal et sa collègue sont disparus, la culture va s'en aller. La génération qui a été conquise, généralement, arrive à sauver la génération d'après. C'est tout. Et puis regardez les efforts qui sont faits en Louisiane aujourd'hui pour ressusciter le français, les écoles françaises. Bon, des gens comme Zachary Richard qui le fait depuis longtemps, mais comme Jourdan Thibodeau qui prend le relais un petit peu, tout ça. Mais il y en a peu de ces gens-là. Et c'est beaucoup plus dur de reconstruire que de préserver.
Ouais.
Alors, la question que le roman pose en définitive, c'est combien de temps tu peux survivre si tu n'agis pas? Et heureusement, il y en a qui agissent, puis bon, il y a quand même une fin qu'on ne trahira pas.
Non.
Mais qui donne
et que c'est dur de faire ça, de ne pas trahir la fin. Hein?
Non, mais c'était... Rassurez-vous, chers lecteurs éventuels, il y a quand même un minimum d'espoir.
Tout à fait.
On va le dire comme ça.
Alors, je vais poser des questions très rapidement parce que c'est... Quand j'ai parlé du roman à des amis, ils m'ont dit « Mon Dieu, mais il a pris combien de temps à écrire ça? » Parce que c'est tellement d'actualité.
3 mois.
Ah,
je me suis réveillé un matin, il fallait que je l'écrive, ça a été ça.
Ah, 3 mois.
Ça m'est jamais arrivé d'avoir une urgence d'écrire comme ça.
Mais il y a de la recherche, là, des faits historiques.
Bon, là, je ne tiens pas compte, mettons, du mois et demi, 2 mois de lecture préparatoire.
Oui.
Mais j'avais déjà lu une tonne de trucs sur Trump, parce que ça fait depuis 2016 que j'essaie de comprendre la bête. Et j'en ai ajouté une dizaine, douzaine.
Est-ce que vous avez réussi à le comprendre? Moi non, pas encore.
Oui, j'ai compris qu'il n'y avait rien à comprendre. j'ai accepté le fait qu'on vit dans un monde de démence pure, d'improvisation, d'effets spéciaux et d'effets choquants.
Le type
vit dans une télé-réalité, tout simplement.
Je terminerai là-dessus. Il faut toujours savoir qu'il ne faut pas dire des affaires hors d'onde à un journaliste parce qu'il s'en rappelle. Est-ce qu'il y aura une suite?
J'aimerais qu'il y en ait une.
Qu'est-ce que je suis
Je vais laisser à mon éditeur le soin de voir si c'est pertinent. J'en aurai une et j'ai laissé une porte ouverte.
Bon, alors Hervé, vous êtes un bon politicien, mais surtout un bon auteur.
Merci. Je ne sais pas si je vous remercie pour les deux, mais je vous remercie pour le second.
C'était une taquinerie, le premier commentaire. Merci beaucoup, Hervé Gagnon. Je rappelle que le livre, le 51e Canada 2038, publié chez Alire, sort en librairie le 11 septembre prochain. Oui, je sais, je l'ai déjà lu parce qu'on est des petits privilégiés.
Vous êtes privilégiés, bien.
On fait de la radio, puis c'est ça. Merci beaucoup, Hervé.
Ça fait plaisir.
Vous connaissez en anglais, on dit ça, les blues du lundi ou les Monday blues, c'est quand tout va mal, ben oui. Mais genre, ça a été le fun, on a une bonne émission, c'est juste que je me suis perdu dans mes feuilles aujourd'hui. C'est comme ça. Ça fait longtemps que ça ne m'était pas arrivé de me tromper comme ça, mais c'est pas grave. On a une émission qui, somme toute, nous a bien informés et divertis. Je rappelle donc qu'aujourd'hui, la météo, alternance soleil et nuages, presque partout au pays, avec maximum autour de 21, humidex 26. Les exceptions, c'est le nord d'Ontario et la Colombie-Britannique et l'Alberta, où il y a du soleil, avec des maximums autour de 23 et humidex à 25. Aujourd'hui à Canal M à 17h, ben, c'est une reprise de l'émission L'heure où l'arc-en-ciel se lève que j'ai l'honneur d'animer. Et je vous rappelle aussi que nous, on revient en onde le 14 septembre avec des nouveaux épisodes. Et puis, ben, c'est ça, on va revenir demain à l'émission au quotidien. Merci à Mathieu Tessier qui est de retour aujourd'hui. Et merci aussi à toute l'équipe de Canal M. Je m'appelle Denis Martin Chabot. À demain!